Le retour au micro de Laura Dulieu.
La sécurité de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine est-elle menacée? L'arche qui protège le réacteur endommagé de la centrale n'est plus en mesure d'assurer sa fonction de protection en raison de dégâts causés par un drone. C'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les faits remontent au 14 février lorsqu'un drone transportant une charge explosive avait frappé le site. Ukraine et Russie se renvoient la responsabilité du tir. Alors ce n'est pas rassurant, mais à court terme, pas d'inquiétude, Nathanaël Charbonnier.
Grave ou pas grave, c'est vraiment la question qui se pose et la réponse, comme souvent, est nuancée. Pour comprendre les choses, il faut visualiser la centrale. Vous avez le réacteur qui a brûlé, il est recouvert d'un sarcophage qui est lui-même recouvert d'une arche. Au moment où l'on parle, rien ne change pour le réacteur, rien ne change pour le sarcophage, c'est l'arche qui est endommagée. Donc à court terme, pas de risque de nuages radioactifs, mais ce n'est pas pourtant une bonne nouvelle, explique Pauline Boyer de Greenpeace, car il faudra absolument réparer.
Les dégâts qui ont été causés sur l'arche de confinement qui a été construite à grands frais par la communauté internationale pour éviter justement la dispersion dans l'environnement de particules radioactives et pour maintenir un taux d'hygrométrie constant pour ne pas abîmer le sarcophage à l'intérieur. Cette construction, elle a duré 20 ans. Si on a besoin de la faire rouler sur ses rails pour la déplacer, pour que les travailleurs ne soient pas trop exposés à la radioactivité qui est importante à proximité du sarcophage, eh ben, ça veut dire des travaux gigantesques.
Pas d'inquiétude à court terme, à condition toutefois qu'aucun autre drone ne vienne heurter la centrale. La catastrophe de Tchernobyl a eu lieu en avril 86, soit 40 ans en avril prochain.
Nathanaël Charbonnier. Et puis cette nuit, la nuit dernière, la Russie a une nouvelle fois massivement frappé, notamment des infrastructures énergétiques ukrainiennes, de quoi priver de chauffage et d'eau des milliers de foyers, selon Kiev. Alors qu'en parallèle, ukrainiens et américains continuent leur pourparlers en Floride autour du plan de paix proposé par Donald Trump. Nous ne confondons pas l'islam et l'islamisme, et nous ne confondons pas l'islamisme avec le terrorisme. Les mots de Jean-Luc Mélenchon devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur des liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes. La question de la laïcité de l'État est fondatrice pour notre mouvement, dit le chef des Insoumis, qui estime aussi que les travaux de cette commission ont innocenté LFI avant même son audition. Le vote global du budget de la sécurité sociale, ce sera mardi à l'Assemblée nationale, après l'adoption hier de la partie recettes. Hier soir, les députés sont allés quasiment au bout de la partie dépenses, avec notamment le rétablissement de la suspension de la réforme des retraites. Et on garde un œil sur le compteur du Téléthon. Il dépasse maintenant les 28 millions d'euros de promesses de dons au dernier comptage pour la recherche sur les maladies rares. Et pour dépasser les 96 millions d'euros l'année dernière, un seul numéro, le 3637 et le site internet du Téléthon.
Merci Laura Dulieu. Dans la prochaine demi-heure sur France Info, l'invité culture, Frédéric Carbone reçoit l'écrivain Benjamin Dierstein pour un polar politique. Vous entendrez ça, une plongée dans les années 70-80 autour de l'élection de François Mitterrand. Nous irons dans le Nord sur un site ArcelorMittal qui va bénéficier d'un investissement record, un demi-milliard d'euros. Mais d'abord, les mots rudes de Donald Trump au sujet de l'Europe.
France Info, 14h-17h. Augustin Rivé.
C'est un nouveau coup donné par Donald Trump à l'Europe. La stratégie de sécurité nationale est un document traditionnellement publié à chaque nouveau mandat par l'administration américaine. Il sert à préciser sa ligne géopolitique. Et Agathe Mahuet, le président américain, y décrit l'Europe comme un continent menacé par un effacement civilisationnel.
Le document américain reprend à son compte la théorie d'extrême droite d'un prétendu grand remplacement en Europe et affirme que le continent deviendra méconnaissable d'ici moins de 20 ans si les tendances actuelles se poursuivent. Les Européens, en somme, accusés par Donald Trump de ne pas prendre leur destin en main face à l'immigration essentiellement. Il insiste, les membres de l'OTAN seront bientôt majoritairement non-européens et il dit douter dans ces conditions que certains pays puissent rester des alliés fiables. Une nouvelle étape donc dans cette bataille idéologique où l'administration Trump évoque aussi une censure de la liberté d'expression en Europe et une répression de l'opposition politique en désignant là les efforts de certains États pour contenir la montée de l'extrême droite. Ce texte de 33 pages est une claque supplémentaire pour les alliés traditionnels des États-Unis et il fait écho au discours sur le même ton de J.D. Vance, le vice-président à la conférence de Munich en février dernier, discours qui avait été qualifié à l'époque par plusieurs responsables européens d'ingérence de la part de Washington.
Et cette fois encore, la stratégie de sécurité nationale, donc dévoilée par l'administration Trump, elle fait réagir.
Oui, c'est un document inacceptable et dangereux, dit ainsi l'eurodéputé Valérie Ayer, qui préside le groupe centriste Renew au Parlement européen. Cette administration Trump n'a pas à se mêler de nos politiques intérieures. Elle est un ennemi de l'Europe, tacle l'élu, pour qui nous devons cesser de nous comporter en amis avec elle. Même tonalité pour la vice-présidente de la Commission des affaires étrangères au Parlement européen, Nathalie Loiseau, pour qui il faut créer une véritable autonomie stratégique et construire une Europe puissante qui ne se laisse dicter par personne ses choix de société.
Agathe Mahuet, merci beaucoup. Bonjour Patrick Martin-Jeunier.
Bonjour.
Vous enseignez à Sciences Po et à l'INALCO. Je cite votre livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama, en étant plein dans le thème. Pouvons-nous nous payer le luxe de ne plus être amis avec l'administration Trump ?
Je crois qu'il faut, avoir deux choses. Les États-Unis sont un grand allié de l'Europe. C'est un pays qui donc dirige de fait l'OTAN, donc qui est de nature à continuer à assurer notre sécurité. Mais sur les sujets de société, c'est la première fois qu'on voit un tel document dans l'administration Trump, qui effectivement, sous couvert de parler de sécurité nationale, est en réalité un signe envoyé à tous les partis d'extrême droite en Europe, parce que vous l'aurez vu, on en appelle à la résistance, l'effacement civilisationnel, comme ça a été dit, et le grand remplacement. Tout cela, c'est du langage de l'extrême droite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté, un vrai problème avec cette administration Trump, qui n'est pas une administration républicaine comme on a pu en connaître. C'est une administration qui, manifestement, prend le parti de tous les partis d'extrême droite en Europe, ce qui est extrêmement dangereux. Et donc, effectivement, la question se pose de savoir si nous devons continuer coopérer avec cette administration qui, de toute façon, s'agissant de la guerre en Ukraine, par exemple, eh bien, a pris le parti de la Russie.
Mais la question se pose, et je vous la pose, si Trump se permet ces attaques, c'est parce qu'il sait que cette relation est déséquilibrée et qu'au fond, peut-être que nous n'avons pas tellement le choix.
Oui, mais vous savez, tout le monde a peur de Donald Trump. Regardez le secrétaire général de l'OTAN qui n'arrête pas de dire que Trump est le plus grand des présidents des États-Unis de tous les temps, que grâce à lui, on va avoir une percée en Ukraine, et on s'aperçoit bien que ce n'est pas le cas, que l'administration Trump prend le parti pro-russe de Vladimir Poutine. Et c'est vrai que lorsqu'Emmanuel Macron a prononcé cette expression lundi dernier avec Volodymyr Zelensky, que les États-Unis pouvaient apparaître comme des traîtres à l'Ukraine et à l'Europe. Il a des raisons sur le fond. Tout cela passe très mal aux États-Unis. Mais oui, aujourd'hui, on peut se demander si l'administration Trump ne se conduit pas en véritable ennemi de l'Europe et de la sécurité européenne, car c'est bien le chemin que l'on prend. Et j'en profite pour dire également que l'opposition démocrate est quand même assez choquée de ce document qui, en réalité, montre bien qu'il ne s'agit pas de protéger les Européens, même si on dit que l'Europe doit être forte. En réalité, on accuse les gouvernements européens de ne pas rechercher la paix avec la Russie, et donc c'est aussi un document pro-russe en quelque sorte, ce document sur la sécurité nationale. Donc il y a beaucoup de contradictions qui ont été mises en évidence par les démocrates aux États-Unis, et donc c'est manifestement un document qui malheureusement montre bien que l'Europe est quelque chose qui est une victime en fin de compte de l'administration Trump.
Mais quel poids pèsent ces démocrates que vous citez aujourd'hui ? Alors un mandat président américain, c'est 4 ans. On peut patienter en attendant une bascule politique à Washington et en se disant ce sera peut-être au tour des démocrates ensuite.
Écoutez, je crois que de toute façon, il est vrai qu'il y a des élections de mi-mandat, des mid-terms l'année prochaine en 2026. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'équilibre du Congrès qui est en jeu. Et naturellement, je crois que le président américain sera très certainement empêché de faire tout ce qu'il fait s'il y a une nouvelle majorité démocrate au Congrès, ce qui est espéré. Mais n'oublions pas que les républicains, la base républicaine, ce qu'on appelle les MAGA, eh bien, restent encore très attachés à Donald Trump. Et donc c'est ça la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a une administration qui se comporte en véritable ennemi de l'Europe. Espérons que ces élections de mi-mandat pourront permettre un rééquilibrage politique à Washington.
Vous le disiez, Emmanuel Macron devançait en quelque sorte ses révélations en début de semaine lorsqu'il a reçu Volodymyr Zelensky à l'Élysée. Après cette réception à Paris, le chef d'État français est parti en Chine. S'il faut se tourner vers d'autres puissances, est-ce que ça peut être par exemple, de ce côté-là.
Non, je ne le pense pas non plus, parce que vous savez, les Chinois ne font rien gratuitement. Je suis très étonné de dire qu'il faut que les Chinois viennent investir en France, prennent des participations des entreprises. Il ne faut jamais oublier que, de toute façon, les difficultés que nous pouvons avoir avec les États-Unis, nous ne pourrons pas les rattraper avec la Chine. Nous sommes complètement dépendants de la Chine sur toute une série de produits, notamment les minerais rares, notamment l'électroménager, notamment les médicaments. Et donc, il faut rééquilibrer notre commerce avec la Chine, mais je suis assez dubitatif sur le fait qu'on demande aux entreprises chinoises de venir prendre des participations dans des entreprises en France ou en Europe. On sait très bien que, s'agissant de la Chine, eh bien, le commerce, il y a toujours un arrière-plan géostratégique de mieux contrôler les flux, notamment financiers et industriels, en Europe. Donc, il faut être également très prudent.
Alors, y a-t-il d'autres options, si ce n'est pas avec les États-Unis ni avec la Chine, ou bien est-ce qu'il faut, comme le disait Nathalie Loiseau, donc eurodéputée, eh bien, aller vers une autonomie stratégique? Est-ce qu'il peut y avoir une autonomie stratégique européenne et qu'on fonctionne finalement en vase clos?
Non, on ne peut pas fonctionner en vase clos dans une économie interdépendante, mondiale interdépendante. Je crois qu'aujourd'hui, bien évidemment, il faut essayer de se protéger, il faut essayer d'investir. La Chine est notre premier partenaire commercial pour l'Europe. La politique commerciale, d'ailleurs, est de la compétence de l'Union européenne. Il faut tout faire pour continuer à exporter, peut-être baisser les contraintes réglementaires et administratives en Europe pour permettre aux entreprises d'investir. Mais en effet, je crois qu'il faut aussi se protéger. Il y a un mot qu'il ne faut pas oublier de prononcer, c'est éventuellement le protectionnisme. Quand on voit que les batteries des véhicules électriques chinois arrivent entre 15 et 20% moins chères que les batteries électriques faites en Europe, nous devons nous protéger, nous devons avoir des barrières tarifaires, comme le font les États-Unis, et nous avons un marché unique qui est très important. Donc bien évidemment que nous n'avons pas les moyens d'une autonomie stratégique, mais nous avons les moyens de protéger, je dirais même un devoir de protéger les industries européennes, quitte à se protéger des exportations massives qui arrivent de Chine.
Et puis par ailleurs, cette Europe qui est dans le titre de votre livre, est-ce qu'elle est une et indivisible ou est-ce qu'elle n'est pas au contraire un peu morcelée? Rien qu'avec cette guerre en Ukraine dont on parlait, Viktor Orban était à Moscou la semaine dernière, c'est difficile de dire l'Europe au singulier.
Oui, bien sûr, mais vous savez, lorsqu'il a fallu se mettre d'accord sur des sujets extrêmement sensibles, notamment les sanctions vis-à-vis de la Russie, au final, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, ne s'y est pas vraiment opposé, parce que il sait que son budget dépend aussi, notamment pour les fonds structurels, de la manne européenne financière. Donc finalement, il est beaucoup question d'argent en Europe, et je crois qu'on arrive quand même à se mettre d'accord. Regardez par exemple le 19e train de sanctions pris par l'Union européenne. Au final, l'Hongrie ne s'y est pas opposée, car elle a bien plus d'intérêt en Europe qu'en Russie, même si, je vous l'accorde, c'est quelqu'un qui joue le jeu de Vladimir Poutine en Europe. Donc, soyons optimistes, renforçons l'Europe. Oui, c'est vrai, l'Europe doit se renforcer en termes de défense, en termes d'économie, et renforcer également la cohésion européenne. C'est l'avenir que nous impose ce contexte international.
Merci Patrick Martin-Jeunier. Votre livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» c'est aux éditions Studirama. Vous qui êtes enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, l'économie européenne qui a parfois tout de même besoin de partenaires lointains, ArcelorMittal en l'occurrence, qui propose son plus gros investissement depuis 10 ans sur notre continent. Le groupe sidérurgique s'apprête à lancer de nouvelles lignes de production d'acier électrique près de Dunkerque, le site de Mardic dans le Nord. 500 millions d'euros mis en jeu. Raphaël Ebenstein, c'est destiné à l'équipement des voitures électriques.
Une immense halle pleine de grosses bobines d'acier qui servait de lieu de stockage depuis l'arrêt en 2005 de la fabrication d'acier pour les emballages. C'est là que sont installées les trois premières lignes de production de ces aciers électriques, plus fins que le métal traditionnel et enrichis en silicium pour leur donner des propriétés magnétiques. Deux autres lignes encore en chantier devraient aussi démarrer à horizon 2027. Le début d'une nouvelle ère pour le site de Mardic, selon Hugues Baudin, directeur du programme acier électrique d'ArcelorMittal France.
Oui, on recrée une filière, on recrée des emplois, on recrée des installations. Et donc on est reparti pour des années avec ces nouvelles installations.
175 emplois ont déjà été créés, il y en aura 200 à terme. Mardic deviendra ainsi le deuxième site spécialisé en France dans les aciers électriques, après celui de Saint-Chély-d'Apcher en Lozère. Ce sont les deux seuls en Europe. Cela permettra de doubler la capacité totale de production, explique Gaël Le Papillon, responsable du site.
On est entre 150 et 160 000 tonnes d'acier qui sortiront du site de Mardic, d'acier électrique, ce qui nous amènera à 295 000 tonnes par an sur nos deux sites français pour fournir donc essentiellement le marché automobile ou bien des moteurs électriques pour l'industrie en général.
De quoi pouvoir normalement fournir de nombreux constructeurs en Europe sur fond de montée en puissance des modèles électriques ces prochaines années. Et alors que 40% des aciers qu'ils utilisent aujourd'hui sont importés, Bruno Ribaud, directeur général d'ArcelorMittal France.
Nous, on est là pour faire en sorte que ces marchés ils soient aussi servis par une industrie européenne, même dans des circonstances qui sont difficiles en raison d'une compétition déloyale venue essentiellement des pays d'Asie du Sud-Est.
Un message clairement adressé aux gouvernements européens afin qu'ils valident au plus vite le mécanisme de protection notamment imaginé par la France pour limiter les importations en Europe dès l'année prochaine.
Voilà ce reportage à Mardic, dans le Nord, de Raphaël Ebenstein, service économie de France Info. Et nous l'avons vécu ensemble sur France Info hier soir, le tirage au sort du Mondial de foot 2026. La France dans le groupe I, comme le Sénégal, la Norvège et un barragiste encore indéterminé. France-Sénégal, un petit goût de revanche. Deux décennies après la Coupe du Monde 2002 et une élimination des Bleus dès la phase de poule. Ce qui est sûr, Mathilde Cariou, c'est que ça promet une belle ambiance dans notre pays où la communauté sénégalaise est importante.
Dans ce petit restaurant sénégalais du 18e arrondissement de Paris, la télévision diffuse des matchs en continu.
Le Sénégal gagne, le lendemain c'est gratuit.
À l'arrière, en cuisine, le tirage était très attendu.
C'est sûr, que là,
vous avez dit en plus.
Dire, toute la journée, moi je priais Sénégal-France, je vous assure. C'est Maroc qui va avoir Brésil et le Sénégal va avoir la France et ça sera très bien.
Massamba, le patron, est sénégalais, son neveu Sacha, français. Mais pour le mondial, il n'y a plus de famille qui tient.
On va être fâchés l'un contre l'autre.
Non, non, vous ne revenez même pas dans le restaurant.
Y a
vous restez là-bas.
Il y a qui d'autre avec nous?
Il y a Norvège en plus.
Ah ouais, ton ami aussi?
Mais ça va, moi j'ai pas peur de toute façon.
Pourquoi vous dites le Sénégal va forcément gagner?
Parce qu'ils sont culottés. Une très bonne équipe. Une équipe jeune qui joue des années et années.
De qui il faut se méfier dans l'équipe du Sénégal? À qui on doit faire attention?
Les 11 joueurs. Tous les 11 joueurs.
La liste d'excellents joueurs est longue, nous confirment Pambou et Tanguy, deux franco-sénégalais venus dîner ici.
Bah, y a le grand Sadio Mané, évidemment. Le GOAT sénégalais qui a déjà amené la CAN. Quelle année déjà?
2019.
Ouais. Bah, du coup, Sadio Mané, c'est très important. Après, ils ont beaucoup de petits jeunes dont faut se méfier. Illimane Ndiaye, petit Ismail Assar, y a Lamine Camara. Donc, faut se méfier, c'est une belle équipe. Très solide.
D'autant plus que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, approche dans deux semaines. De quoi faire pencher la balance en faveur du Sénégal.
Ils sont à l'aube d'une grosse compétition. Nous, on est à l'aube d'une reconstruction. On a certes l'un des meilleurs joueurs du monde dans notre équipe, mais match nul, on va dire, que l'égalité règne.
Tous ici se souviennent de 2002, la défaite française face au Sénégal. Ce sera un remake, conclu Massamba, et sûrement pas une revanche.
Mathilde Cariou auprès de Sénégalais de Paris pour France Info. Ce mondial qui démarre le 11 juin prochain, ce sera par un match Mexique-Afrique du Sud au stade Azteca de Mexico.
France Info, reportage, partout avec vous.
Voici Judith, 15 ans, temps d'écran quotidien sur TikTok.
3 heures.
Elle ne voit pas du tout ses parents télécharger TikTok sur leur téléphone pour ensuite contrôler à distance son compte.
Bah, ça risque pas d'arriver, je pense, ils la surveilleront jamais.
Sur le terrain, sur tous les terrains.
Un grand ciel bleu, les familles pique-niquent dans une bonne odeur de grillade.
Il y a des jeunes, des enfants, c'est très festif. J'oublie que c'est la guerre. Il faut profiter du moment présent, car on ne sait pas de quoi demain sera.
France Info, pas juste l'info, l'info juste. France Info, 14h-17h.
L'invité culture à suivre sur France Info juste après le fil info, puisqu'il est 16h19, Laura Dulieu, la réforme des retraites à nouveau suspendue.
Les députés ont voté en ce sens hier soir pendant l'examen de la partie dépenses du budget de la sécurité sociale. Les derniers articles seront débattus mardi, juste avant le vote global sur le texte. Le bilan des inondations et des glissements de terrain dépasse désormais les 900 morts, rien que sur l'île indonésienne de Sumatra, où les craintes de famine s'intensifient. Il pleut à nouveau sur la l'Asie du Sud-Est où la saison des moussons est particulièrement intense depuis plusieurs semaines. Le choc à Saint-Sébastien-de-Retz dans la Manche où un cycliste de seulement 13 ans est mort jeudi, renversé par une camionnette dont le conducteur a pris la fuite. Le maire de la commune lui demande de contacter la gendarmerie le plus vite possible. La gendarmerie qui a par ailleurs lancé un appel à témoins. La suite de la 15e journée de Ligue 1 en foot après la victoire de Brest et celle de Lille hier soir. Nantes reçoit Lens à 17h et à suivre ce soir Toulouse-Strasbourg à 19h et PSG-Rennes à 21h.
France Info.
C'est le moment de l'invité culture avec Frédéric Carbone et un tour en librairie ce samedi.
L'invité culture nous plonge aujourd'hui dans une France qui croyait encore que la politique pouvait changer la vie, mais où les trahisons et les manipulations n'ont rien à envier à ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Bonjour Benjamin Dierstein.
Bonjour.
Avec L'étendard sanglant élevé publié chez Flammarion, vous poursuivez votre roman noir des années 70-80, deuxième tome d'une trilogie qui est à la fois un western politico-policier et une chronique très soigneusement documentée qui se lit comme un thriller. Cette période, pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse particulièrement ?
Parce que c'est une période très très bouillonnante. Là, en l'occurrence, l'étendard sanglant élevé, c'est notamment sur l'alternance de 81. Donc, vu que je m'attache pas mal à décrire les mécanismes de Beauvau, comment fonctionne la hiérarchie, les rapports entre les politiques et les flics, etc., les syndicats, tout ça, forcément, les moments d'alternance, c'est des séismes. C'était forcément intéressant de radiographier ça à cette époque-là, quoi.
On va parler de ces rapports-là, mais plus largement, est-ce que c'est pas aussi une période de bascule complète, les 30 Glorieuses ? C'est fini et la France d'aujourd'hui, elle commence à se dessiner là aussi.
Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr que c'est le premier bleu, blanc, rouge. Il avait plus ce grain disco un peu vintage des années 70. Et puis là, c'est vrai que là, on est dans les années 80. Ça ressemble un peu plus au monde d'aujourd'hui, au monde moderne. On est dans un monde un peu plus noir aussi, quoi. Il y a moins de paillettes, on va dire.
Comme dans le premier tome, donc vous le dites, vos personnages de fiction sont souvent des policiers. Pour la plupart, différents services de renseignement, la BRI aussi, l'unité d'élite d'intervention. Et ils côtoient des vrais acteurs de l'époque, de François Mitterrand au colonel Kadhafi, de Jean-Marc Rouillant d'Action Directe au mercenaire Bob Denard. Le fil conducteur, ce sont les coulisses, les coups tordus. Et pour le coup, puisque vous en parliez, mai 81, l'alternance politique, ça change rien à ça.
Alors ça change quand même le
dans
fait
les pratiques,
que
pas beaucoup.
Dans les pratiques, ils ont essayé de changer un petit peu, et puis ils se sont vite rendus compte que c'était la merde. Je pense qu'il y avait à la base une bonne volonté de la plupart de ceux qui sont arrivés au pouvoir, et Mitterrand le premier, parce qu'il a mis en place quand même pas mal de gens qui venaient de mai 68 et qui avaient envie de changer le monde. Mais ils se sont rendus compte, je pense, que c'était impossible par rapport à ce qu'ils voulaient faire, par rapport au projet qu'ils avaient envie de donner à la France. Et ils ont eu ce choix, je pense. Est-ce qu'on va vers la mondialisation et qu'on accepte les règles libérales, la rigueur, etc., ou est-ce qu'on ferme tout, est-ce qu'on fermer les frontières économiques, et puis voilà, ils ont vraiment choisi entre ces deux choix-là.
Et côté rapport avec les policiers, coups tordus, ils savent bien se recaser, cela.
Ah oui, ça c'est sûr. Ils ont viré les boulets de l'époque, et puis ils en ont remis d'autres à la place. Donc c'est pas on prend les mêmes et on recommence, c'est on vire ceux d'avant et on en remet des nouveaux, mais qui en font les mêmes conneries.
On est dans une histoire, on le comprend, très française, mais écrite comme vos autres livres, très à l'américaine. Je disais western, et puis il y a cette inspiration évidente de James Ellroy.
Bien sûr, ouais. J'ai pris beaucoup de choses chez Ellroy, hein, que j'assume complètement, parce que c'est une grosse source d'inspiration, pas sur tous ses bouquins, mais sur sa manière de faire, sur certains bouquins. Je pense à American Tabloid, notamment pour le principe de mettre des annexes entre les chapitres, des annexes de presse ou d'écoute. Je trouve que ça fonctionne très très bien, donc j'ai clairement repris des choses comme ça que je trouve assez importantes à utiliser pour gagner en efficacité, quoi, sur des récits comme ça.
C'est un roman foisonnant, haletant, on est véritablement en apnée de la première à la dernière page, mais sur une base documentaire impressionnante. Comment on se perd pas dans tout ce qu'on accumule ?
En vrai, on s'y perd un peu, hein, parce que c'est comme une usine à gaz, surtout que j'ai écrit les trois d'un coup, et comme un seul projet, comme si c'était un seul roman, donc je me suis retrouvé en vrai avec 2500 pages. Et avant ces 2500 pages, je me suis retrouvé avec un plan qui chapitrait tout ce qui allait devenir ces 2500 pages. Donc il y a forcément des moments où j'ai douté, où j'ai changé pas mal d'intrigues ou de sous-intrigues, parce qu'il y a une centaine de fils rouges différents, 300 personnages, donc voilà, c'est un bordel géant à organiser, il faut... faut être un minimum organisé dans sa tête pour s'en sortir.
On devient parano quand on est comme vous aussi en apnée dans une telle matière, on ne croit plus en rien.
Parano, je ne sais pas si c'est de la parano, je suis assez blasé peut-être politiquement parce que j'ai l'impression que n'importe quel bord qu'on soit, le moment où on arrive au pouvoir, forcément on se crame les ailes. Et c'est ce que j'essaye de montrer un peu dans mes bouquins.
On se crame les ailes, mais en même temps, il n'y a pas non plus de caricature, de volonté de salir ou de dire tout se pourrit.
Je pense que mes personnages sont peut-être pas sympathiques, mais on les aime quand même, enfin j'espère. Il n'y a pas des noirs et des blancs, quoi. C'est pas manichéen du tout, tous les personnages sont assez gris. Disons qu'ils font tous pas mal de saloperies, mais à côté de ça, ils font des choses très humaines aussi, et puis c'est des gens qui souffrent, alors qu'ils font souffrir les autres, mais qui souffrent eux aussi.
Vous avez de la tendresse pour eux ?
Bien sûr. C'est pas parce qu'ils font des saloperies que j'ai pas de tendresse pour eux. Je veux pas les excuser, hein. Attention, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils souffrent et qu'ils en prennent plein la gueule. C'est important qu'ils en prennent plein la gueule, je trouve ça très moral.
Ouais, vous les maltraitez, certains.
Ouais, ouais.
Il y en a que vous...
Mais à partir du moment où ils souffrent, c'est ça, forcément, j'ai de la peine pour eux, et j'espère que le lecteur aussi, c'est ce qui permet aussi de s'identifier au personnage, c'est normal.
Sadique comme Elroy.
Voilà.
On se fait un film en le lisant, forcément. On imagine tout de suite une série. Il va y en avoir une ? Il y a quelque chose
J'espère. En tout cas, les droits ont été vendus avec une boîte de prod avec qui je travaille déjà, j'en dirai pas plus. Mais on va travailler là sur un scénario, sur une adaptation pour une série, ouais.
Et il y a aussi une musique, un rythme qui est assez addictif. C'est parce que vous êtes vous-même dans l'électro, dans la musique ?
Ça, c'est un truc naturel. Ce que j'aime dans la musique, moi, c'est avant tout la rythmique. Enfin, c'est ça qui me fait vibrer le plus. Et je pense que dans la littérature aussi, dans le cinéma aussi, par exemple, parce que j'adore Scorsese, cette manière de faire des montages hyper dynamiques, ou Peckinpah, par exemple, ce genre de réalisateur. Et c'est vrai que dans la littérature, moi, c'est pas mal ce que je recherche aussi. J'aime bien quand c'est très rythmique. Ça veut dire quand les points ou les virgules apparaissent à un certain moment, quoi. C'est ça qui peut m'intéresser. Donc, je travaille pas mal là-dessus. Je compte mes syllabes parfois entre deux points ou entre deux virgules pour que ça crée une forme de cadence.
Vous l'écrivez à voix haute ?
J'utilise pas ma voix, mais en vrai, je le dis dans ma tête quand même. Donc ça revient un peu à écrire à voix haute, ouais.
Et après, Benjamin Dierstein, vous n'avez pas envie d'écrire sur des personnages qui ne soient pas tous glauques ou véreux ? Il y a quoi ? Il y a un peu de soleil
Ouais, alors de soleil, je ne sais pas. Enfin, si, forcément. Non, mais je vais surtout écrire des romans un peu différents, qui ne seront pas des romans noirs, qui ne seront pas des polars, qui ne seront pas des romans avec des flics ou des gens qui sont très hauts dans la société, qui vont parler de gens un peu plus normaux, et notamment un bouquin qui va parler de l'arrivée de la techno en France dans les années 90 et les premiers pas de la scène rave, des choses que moi j'ai un peu connues, pas forcément au tout début 90, parce que j'étais trop jeune pour ça, mais je vais parler des personnages qui vont vivre des histoires d'amour, d'amitié, de musique sur les années 90. En gros.
Ça vous reposez un peu.
Ouais, ça va faire du bien aussi. Ouais. Je vais quand même pas mal me documenter, hein, parce que l'idée, ça va être un peu de raconter toutes ces années-là d'une manière un peu historique aussi. Donc il y aura quand même du boulot, mais oui, ça va être moins noir.
Merci beaucoup, Benjamin Dierstein.
Merci beaucoup.
L'étendard sanglant est levé, donc publié chez Flammarion.
Et cet entretien, Benjamin Dierstein, avec Frédéric Carbone, c'est l'invité culture sur France Info. C'est à retrouver sur franceinfo.fr. Et puis, vous pouvez aussi le télécharger chaque week-end avec l'application Radio France.
Dès le 8 janvier 2026, TGV Inouï lance Optimum, une nouvelle classe premium pour les professionnels. Sophie, commerciale dans une TPE, voyage régulièrement et a testé Optimum de TGV Inouï en avant-première. Pour elle, le vrai plus, c'est la flexibilité. Pouvoir modifier ou échanger son billet sans frais jusqu'à 30 minutes après le départ, même si le train est complet et avec des prix fixes. Avec Optimum de TGV Inouï, elle dispose d'un espace exclusif et d'un service client très réactif.
Voir conditions sur tgvinouï.sncf.
Il y a apéritif et apéritif Picard.
Nous n'avons rien contre les cacahuètes. Mais avec les fêtes qui s'annoncent, vous n'avez pas envie de pain surprise généreux ou de bâtonnets de mozzarella filante? Vous voyez bien qu'on est d'accord.
C'est déjà Noël chez Picard. Jusqu'à dimanche, profitez de moins 30% sur les produits apéritifs des deux produits achetés hors épicerie avec la carte Picard et nous. Et pour la livraison à domicile et le click and collect, rendez-vous sur l'appli Picard ou sur picard.fr. Jamais pareil, toujours Picard. Voir modalité sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Patricia Charbonnier.
Le temps s'annonce très agité pour ce week-end, mais avec une forte hausse des températures. C'est le retour de la douceur. On attend jusqu'à 19 degrés cet après-midi à Perpignan, 18 à Biarritz, 14 à Clermont-Ferrand, 13 degrés à Paris, Marseille et Limoges, 12 à Lille comme à Lyon et 11 degrés à Dijon, mais avec un temps très instable sur une bonne partie du pays pour cet après-midi, avec une dégradation pluvieuse qui traverse le pays des côtes de la Manche vers les frontières de l'Est et le Sud-Ouest. Cette dégradation sera suivie d'un ciel de traîne très actif cet après-midi sur une bonne partie du pays, avec de fortes averses qui s'accompagneront de bonnes rafales de vent. Le temps sera plus calme entre les Pyrénées, le sud du Massif central et près de la Méditerranée, avec simplement un léger voile nuageux et un peu de vent en Méditerranée, jusqu'à 50 km/h en rafale. Le ciel sera plus nuageux sur la Corse avec quelques averses, et pour demain, on attend des pluies localement soutenues sur une large moitié nord.
Merci Patricia Charbonnier et merci à vous d'écouter France Info ce samedi. Il est maintenant 16h30. Et l'information, c'est avec Armand Perrouloga.
Une enquête pour homicide routier et délit de fuite est ouverte à Niort après un accident de la route ce matin. Un motard de 57 ans a été tué, une femme grièvement blessée. Le conducteur de la voiture en cause a pris la fuite à pied ainsi que son passager avant. Le Sénat veut tailler dans les effectifs de fonctionnaires. Ce matin, il a voté le non-remplacement de la moitié des départs à la retraite dans la fonction publique. Mesure qui ne concernerait pas les ministères des Armées, de l'Éducation nationale, de l'Intérieur et de la justice. Les sénateurs examinent en ce moment le projet de budget de l'État pour 2026, mais c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Nicolas Sarkozy lève le voile sur ses 20 jours de détention. À 5 jours de la parution de son livre Le journal d'un président, l'ancien chef de l'État en diffuse des extraits dans la presse. On y apprend notamment que cette détention a été rythmée de quelques prières parfois à genoux et de discussions avec l'aumônier. Nicolas Sarkozy parle aussi de son régime alimentaire frugal. Les tractations se poursuivent sur l'Ukraine. Troisième jour de discussion en Floride entre négociateurs américains et ukrainiens. De son côté, Emmanuel Macron annonce qu'il va se rendre à Londres lundi pour rencontrer Volodymyr Zelensky, ainsi que le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand pour faire le point sur les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine. Le président français condamne les frappes massives menées par la Russie contre l'Ukraine la nuit dernière. À Hong Kong, les autorités s'inquiètent de voir monter la grogne des citoyens suite à l'incendie qui a fait au moins 159 morts le 26 novembre dernier dans un complexe résidentiel. L'université baptiste de Hong Kong a brutalement ordonné la dissolution du principal syndicat étudiant, car ce syndicat avait affiché des messages réclamant justice pour les victimes de l'incendie. Sur place, Florence de Chanzy.
Sur le dit mur de la démocratie de l'université Baptiste, un lieu traditionnel dans toutes les universités de Hong Kong où chacun peut théoriquement s'exprimer librement, les slogans que le syndicat étudiant avait affichés en gros caractères chinois dans les jours qui ont suivi l'incendie de Taipo exprimaient d'abord les condoléances aux victimes, nos sincères condoléances aux victimes de l'incendie de Wangfu Court. Cela aurait sans doute été toléré. Mais les phrases suivantes interpellaient les autorités en disant « Nous exhortons le gouvernement à tenir compte des préoccupations du public, répondez aux demandes du public, justice doit être faite ». En outre, le syndicat avait également écrit « Nous sommes Hongkongais », un slogan qui a dû faire paniquer les dirigeants de l'université, surveillés de plus en plus près par Pékin. La réaction du professeur Kenneth Chan du département des études internationales à l'université Baptiste.
Je pense que la direction de l'université a surréagi, mais ce type de répression ne va en rien aider l'image du gouvernement. Ça montre surtout ce que Hong Kong est devenu, simplement une ville de Chine comme une autre.
L'université a donné jusqu'à 18h ce soir au syndicat pour libérer les lieux.
Florence de Changi à Hong Kong. En Angleterre, la tour de Londres a été temporairement fermée ce samedi après un jet de nourriture sur la vitrine protégeant les joyaux de la couronne britannique. C'était ce matin. 4 personnes ont été arrêtées. Action revendiquée par un groupe de désobéissance civile. Groupe qui réclame entre autres l'instauration d'une assemblée citoyenne qui pourrait taxer les grandes fortunes. En rugby, première journée de la Coupe des Champions et une lourde défaite pour Clermont en Angleterre. 47-10 face aux Saracens. En ce moment, Bordeaux-Bègles affronte les Sud-Africains des Blue Bulls et avantage aux Girondins qui mènent 14-7. Et puis un point sur le Téléthon 39e édition. Les promesses de dons dépassent désormais les 31 millions d'euros.
Merci Armand Perrouloga. Avant 17h sur France Info, nous parlerons de Netflix et de la volonté de la plateforme de racheter les mythiques studios de la Warner. Les salles françaises observent ça avec intérêt et quelques craintes. Nous irons au Transmusical de Rennes avec un groupe très politique, très libre aussi. Ça s'appelle Camion Bip Bip, mais d'abord un peu de politique avec la France Insoumise.
France Info, 14h-17h. Augustin Rivé.
C'était cet après-midi l'audition de Jean-Luc Mélenchon devant la commission d'enquête sur les liens entre les partis politiques dans leur ensemble et les mouvements islamistes. Gérald Darmanin est reçu dans la foulée. Marine Tondelier a été entendue mardi pour les écologistes, mais il y a probablement une attention particulière avec Jean-Luc Mélenchon. Il a notamment précisé tout à l'heure sa position sur le port du voile.
Oui, c'est vrai, il y a des gens qui mettent ça sur la tête comme un signal religieux. Bien, à nous de faire preuve à ce moment-là de discernement. C'est l'État qui est laïque en France, c'est pas la rue. Et les adultes s'habillent comme ils l'entendent, sauf si leur tenue venait à choquer quoi ? Par leur nudité, c'est pas le cas. Sinon, pour le reste, le seul habit qui soit interdit, c'est la burqa. Eh bien, depuis que ça a été interdit, vous n'en voyez quasiment plus, et c'est comme ça. Ça prouve qu'en général, les gens respectent la loi. Hein ? Même ceux qui sont un peu olé olé et veulent faire des démonstrations, quand il s'agit de la loi, tout le monde est fait du même bois. Hein ? Voilà. Alors maintenant, allons plus loin. Les gens se mettent ce qu'ils veulent sur la tête. Des kippas, des chapeaux en fourrure, des voiles, dans la rue. La rue n'est pas laïque. Mais par contre, pour accomplir le service de l'État, là, ça n'est plus pareil. L'État est laïque. Donc, personne ne met une voile, personne ne met de chapeau de toutes sortes, et ainsi de suite. Voilà. Après, il faut faire preuve de discernement, suivant les circonstances, pour ne pas envenimer les problèmes. Monsieur le rapporteur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand quelqu'un se met un foulard sur la tête ? Vous comptez faire quoi ? Courir dans la rue et lui dire « Enlevez ça ! Vous êtes une islamiste !» La personne vous dira « Pas du tout, il pleut, je mets ça sur ma tête, vous n'en sortirez pas. » Vous voyez bien que ce n'est pas praticable.
Jean-Luc Mélenchon, qui ne semble pas en difficulté manifestement face à cette commission d'enquête parlementaire, ce à quoi s'attendait d'ailleurs Christophe Boutin, politologue et professeur de droit public à l'université de Caen. Il était notre invité tout à l'heure sur France Info.
Ce n'est pas très surprenant pour quelqu'un qui a une grande culture d'une part et de réelles qualités de tribun. Jean-Luc Mélenchon ici s'est exprimé assez clairement. Il a replacé les choses dans le contexte très général d'ailleurs de la laïcité à la française contre toutes les religions, en évoquant le rapport à toutes les religions. Il l'a assez bien fait. Il a été, on vient de l'entendre, assez clair aussi sur la notion du voile, en montrant la difficulté qu'il y a à distinguer entre l'application d'une religion et une volonté prosélyte, les deux choses étant bien évidemment tout à fait différentes et devant être perçues différemment. De ce côté-là, donc, il ne semble absolument pas en difficulté à l'heure actuelle, c'est-à-dire c'est en cours, donc on n'a pas encore la fin de l'histoire.
Sur la nature de cette commission d'enquête, alors initiée par la droite, il n'y a aucun élu de gauche dans le bureau qui la constitue, est-ce que ça vous semble un problème ?
Non, franchement, ça ne semble pas un problème. Ce serait un problème, si vous voulez, s'il y avait un parti pris dans les questions des rapporteurs, dans le rapport final qui sera donné. Mais je crois que cela sera disséqué de manière très fine et par une droite qui ne tient pas ici à avoir l'air sectaire et par une gauche qui va veiller à ce qu'il n'y ait pas justement ces partis pris. Je crois que non, ce n'est pas véritablement un problème.
La droite espère ne pas avoir l'air sectaire. De fait, plusieurs partis sont reçus et je le disais, au-delà des partis, des personnalités politique comme Gérald Darmanin qui est reçu tout à l'heure, mais on peut penser que c'est surtout la France Insoumise qui est dans le viseur.
Oui, parce que effectivement, la France Insoumise a engagé, je dirais, des liens particuliers avec des personnes issues de l'immigration sur des listes électorales. Et là aussi, Jean-Luc Mélenchon a été interrogé sur le sujet et a expliqué la difficulté qu'il y a lorsqu'on compose une liste électorale à se demander si la personne qui souhaite y participer vient parce qu'elle souhaite participer à un mouvement politique ou s'il y a derrière un désir d'entrisme de la part d'une secte, quelle qu'elle soit. Les choses sont effectivement assez difficiles. De ce côté-là, Jean-Luc Mélenchon a tout à fait raison de signaler cette difficulté.
Oui, LFI qui dénonce une instrumentalisation avec cette commission d'enquête. Jean-Luc Mélenchon a rappelé d'ailleurs dès ses premiers mots là, devant la commission cet après-midi qu'à l'origine, il souhaitait la boycotter. Est-ce qu'il y a une volonté de discréditer ce parti d'opposition ?
De discréditer, non. D'essayer de savoir un petit peu plus quels sont effectivement les rapports entre des groupes musulmans qui cherchent à mener une politique d'entrisme et qui l'ont fait dans d'autres pays. C'est le cas des Frères musulmans. Éventuellement, avec le soutien d'ailleurs d'États qui soutiennent ces mouvements, c'est plus de cela qu'il s'agit, plutôt que de chercher à discréditer un parti politique en général.
Et à ce titre, ce rapprochement avec certaines personnalités proches des Frères musulmans, c'est vraiment du côté de la France insoumise qu'il faut aller chercher ces connexions-là ?
Aujourd'hui, il faut aller les chercher partout, les liens qu'il peut y avoir en la matière. Mais comme je le disais à l'instant, c'est vrai que de par la composition même de ces listes électorales, de par les terrains sur lesquels ils cherchent à aller dans la lutte électorale, effectivement, il y a plus de possibilités pour la France insoumise de se trouver avec des militants qui chercheraient à faire effectivement un entrisme.
Jean-Luc Mélenchon qui déclare aussi qu'il ne confond pas islam et islamisme, ni islamisme et terrorisme. Comment est-ce que vous Absolument. Analysez cette phrase-là ? Est-ce que les deux parties de la phrase ne sont pas totalement différentes ? Ce n'est pas la même chose de ne pas confondre islam et islamisme et d'un autre côté ne pas confondre islamisme et terrorisme.
Jean-Luc Mélenchon s'en est assez bien expliqué. Il nous dit l'islamisme, c'est une version, je dirais, plus militante en quelque sorte de l'islam, mais l'islamisme n'est pas nécessairement terroriste. Il a évoqué ici un islamisme quiétiste, c'est-à-dire la volonté de vivre sa religion de manière très forte, mais de le faire en se retranchant un petit peu de la société. Et effectivement, il y a des mouvements quiétistes musulmans, soufis par exemple, ce qu'on ne peut absolument pas nier. En ce sens, il n'a pas tort. L'islamisme n'est pas nécessairement, ne débouche pas nécessairement sur le terrorisme, même si on ne peut nier par ailleurs qu'une part non négligeable des attentats terroristes qui ont secoué la France ces dernières années sont bien et bien l'objet d'islamistes.
Cette commission d'enquête rendra ses conclusions à l'issue de ces discussions, de ces différentes auditions. Il se trouve qu'il y a une élection importante dans 4 mois, maintenant, les municipales. Est-ce que les conclusions de cette commission d'enquête peuvent rejaillir, selon vous, sur la campagne des municipales ?
Elles rejailleront de manière certaine, puisque ça va certainement conduire LFI d'une part, mais aussi les autres partis politiques, à porter un soin tout particulier à la composition des listes électorales et à veiller justement à faire attention à ne pas tomber dans le risque de cet entrisme qui a été dénoncé par la commission d'enquête.
Faudrait-il la même prudence avec d'autres formes de mouvements politiques radicaux, le Rassemblement national et des proximité possible avec certains mouvements d'ultra-droite ?
Bien évidemment, mais je crois que de ce côté-là, le Rassemblement national fait régulièrement, si je puis dire, le ménage. Il ne réussit pas nécessairement à écarter l'ensemble des problèmes en la matière, mais il le fait de manière très stricte dès qu'une personne est repérée comme étant lié à des mouvements d'extrême droite dure, il est écarté de manière systématique des candidatures du RN.
Merci Christophe Boutin, politologue, professeur de droit public à l'Université de Caen. La musique composée par John Williams pour la saga Harry Potter. Le sorcier a été pendant 15 ans au moins l'une des figures de proue de la Warner Bros. Discovery qui s'apprête à être rachetée par Netflix pour la bagatelle de 83 milliards de dollars. Bonjour Richard Patry.
Bonjour monsieur, bonjour à tous.
Vous présidez la Fédération Nationale des Cinémas Français, la Warner, qui avait peut-être perdu de sa superbe avec les décennies, mais elle produisait tout de même encore des films à gros potentiel pour les salles de cinéma. Est-ce qu'à ce titre, ce rachat-là vous inquiète ?
Alors, nous inquiète, oui, un peu. On a surtout beaucoup de vigilance. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire sur la Warner qui avait perdu de sa superbe. C'est un très, très grand studio de cinéma. Et c'est surtout un studio important pour nous en France et en Europe parce que c'est un studio qui produit des blockbusters, comme tous les autres studios, mais qui aussi produit des films d'auteurs. D'ailleurs, le dernier film en date qu'on a vu sur les écrans en France, le Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, en est bien la preuve. Voyez-vous, on a un studio qui fait, bien sûr, des très très gros succès, des films qui font des millions de dollars de